mes frères et mes sœurs, que l'Éternel Dieu, notre Père à tous, vous bénisse et nous garde dans sa parole. Aujourd'hui, j'aimerais simplement introduire une petite réflexion à propos de l'Église, simplement. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais proclamer cette parole dans 2 Corinthiens 10, le verset 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu d'Élohim pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Élohim et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Messie et à l'obéissance du Messie. Qu'il en soit ainsi durant cette réflexion. Et je prie et je demande afin que nos pensées soient amenées à l'obéissance au Messie et à l'obéissance du Messie. Et au nom de Yeshua, je détruis toute forteresse, toute pensée qui va émerger dans qui que ce soit et qui va émerger, qui va tout raisonnement, toute pensée, tout ce qui peut émerger dans quelqu'un contre la connaissance d'Élohim et de son Messie. Oh, je détruis ces forteresses, je renverse ces pensées au nom de Yeshua. Et je proclame la seigneurie de Yeshua sur toutes choses. Oui, quelle que soit ta situation, comme je le disais dans un message précédemment, je disais que le royaume de Dieu n'est pas simplement fait de paroles, d'enseignements que nous pouvons faire, mais également de puissance, de démonstration de puissance et d'esprit. Qu'il en soit ainsi, hein, qu'il en soit ainsi pour nous tous maintenant. Qui que tu sois, où que tu te trouves, je prie pour toi maintenant, afin que l'Éternel Dieu puisse agir, que la droite de l'Éternel Dieu puisse t'atteindre et te sortir de tes difficultés au nom de Yeshua. Et toi qui m'écoutes peut-être pour la première fois et que tu as des difficultés à obéir à l'Éternel Dieu, je prie là que l'Éternel te donne la grâce de lui obéir en toutes choses et de marcher selon sa parole. Le chemin qui mène à la vie est difficile, mais c'est un chemin agréable. C'est difficile, c'est rocailleux, c'est sinueux, c'est étroit, mais nous devons y marcher, sachant qu'une grande récompense, une couronne nous attend à la fin. Que le nom de l'Éternel soit béni et glorifié dans le nom de Yeshua. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai simplement une petite réflexion à faire que j'ai intitulée « Le syndrome de Laodicée ». Le syndrome de Laodicée. Le mot Laodicée, donc, vient de Laodikea, justice du peuple, ou bien coutume du peuple, d'abord. Et nous allons faire une lecture dans le livre des Révélations. Donc, livre, pas de l'Apocalypse, hein, mais des Révélations, puisque c'est le livre qui révèle certains aspects, certaines choses des temps derniers. C'est Révélation 3. Le chapitre 14 au chapitre, oh non, du verset 14 au verset, il y en a plein, hein, au verset 22, mais nous n'allons pas tout lire. Nous lisons. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, commencement de la création d'Élohim. Voilà, donc, à partir du chapitre 1, d'accord, le Seigneur Yeshua qui est apparu dans sa gloire, a donné des révélations à Jean qu'un ange lui a transmis. Et le Seigneur Yeshua a demandé à énoncer le nom de cette église. Bon, il y a eu beaucoup d'écrits sur ces sept églises. Moi, je considère que ce sont des types d'églises qui ont existé, qui existent et qui vont exister si le Seigneur tarde à venir. C'est ça, c'est les types d'églises. Il peut y avoir aussi des mélanges. Nous le voyons tous aujourd'hui, hein, que dans beaucoup d'assemblées chrétiennes ou de dénominations, il y a toutes ces formes-là. Et certaines personnes ont vu à travers, on peut le voir parce que la parole de Dieu ne peut pas être d'une interprétation particulière, que c'est les différents âges de l'église. Voilà, qu'au dernier moment, au dernier temps, c'est l'église de Laodicée qui va exister. Voilà, c'est une église apostate qui a rétrogradé complètement. Voilà, donc nous voyons que l'église de Laodicée est nommée en septième position. Normalement, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de l'accomplissement de quelque chose de plein. Vous voyez, de la plénitude, comme on parle des sept esprits de Dieu. Vous voyez, des sept esprits de Dieu, ou bien les sept, ça rejoint le Ésaïe 9, où il a dit, un fils nous est né, il s'appellera Père éternel, voilà, ainsi de suite, on a nommé sept caractéristiques du Messie. Ce sont les sept esprits, ce n'est pas parce que Dieu a sept esprits, non. C'est une plénitude. Voilà, c'est comme la Bible nous a révélé que Elohim a donné au Messie de l'esprit sans mesure. Sans mesure. Voilà, que Yeshua a reçu l'esprit sans mesure. Voilà, donc normalement, c'est un chiffre qui est lié à la perfection, à la plénitude. Mais ce que nous voyons, c'est le contraire. C'est que les choses se sont vraiment dégradées. Et l'église de Laodicée sera l'aboutissement de cette dégradation, de cette corruption de l'église. Donc la corruption est progressive, on l'a vu durant les différents types d'assemblées. La progression est progressive et irréversible. Et irréversible. Vous voyez que les choses vont aller de mal en pis. Et cela corrobore, si nous prenons les choses comme ça, à ce que la Bible nous dit, que dans les derniers temps, beaucoup, bon, Yeshua, dans Matthieu 24, parlait donc des croyants, de ses disciples, de la communauté chrétienne, que beaucoup vont se haïr et se trahir, ou bien beaucoup renonceront donc à la foi. À la foi en lui, beaucoup vont se détourner de lui. Donc, ce chiffre 7 nous indique qu'il y a une dégradation importante dans cette assemblée et que ce sera la fin de cette dégradation ou bien le modèle le plus abouti de cette dégradation. Au lieu d'être le modèle le plus accompli de la sainteté, Laodicée sera le modèle le plus accompli de la corruption ou bien de la dégradation d'une église, d'une assemblée. C'est pourquoi les titres que porte Yeshua ici est très important. L'Amen. Voilà, il a déjà tout dit. Il a déjà tout dit, il n'y a plus rien à dire. Voyez, l'Amen. L'Amen, c'est la fin, ainsi soit-il. C'est en vérité également, Amen, Amen. Dit en vérité, je vous le dis. Voilà, l'Amen final est donné. Le témoin fidèle, mais oui, Yeshua a marché dans ce monde, il a été un témoin fidèle. Il est la lampe qui brille dans un milieu obscur. Il est le témoin fidèle, il est l'homme parfait, il est le disciple parfait, il est tout, il est notre modèle. C'est pour cela que Éphésiens 4 nous le dit, que la présence des ministères et des dons dans une assemblée ou bien dans l'église en général, ouais, va nous conduire, va conduire les frères et les sœurs que nous sommes à la perfection, à l'unité de la foi, à l'état d'homme fait, d'être humain fait, à l'image du Messie. D'accord? Voilà, il est le témoin fidèle, il est le standard, il est le véritable, il ne change pas, il est vrai, le véritable, il est inaltérable, aletinos en grec, ce qui n'a pas seulement le nom et la ressemblance, mais qui est à la réelle nature correspondant au nom dans le respect de l'idée signifiée par le nom, le réel, le vrai, le véritable, opposé à ce qui est fastueux, contrefait, imaginaire, simulé ou prétendu. Vous voyez, aujourd'hui, on a des faux messies. C'est pourquoi Paul nous prévient que il ne faut pas accepter un autre Jésus. Il ne faut pas accepter un faux messie. Que dans les derniers temps, les gens viendront prêcher un autre Jésus, un autre Yeshua, un autre Messie, vous voyez, que celui qu'ils ont prêché. Même que si même un ange revenait pour dire le contraire, de ne pas le croire. Il est le modèle abouti, le véritable, aletinos, opposé à ce qui est imparfait, défectueux, fragile, incertain. Il est vrai et sincère. C'est le vrai Yeshua, c'est le vrai Jésus. Voilà, c'est pourquoi il porte ce titre-là, celui qui parle à Laodicée. Il est le vrai, il n'est pas le faux, il n'est pas le contrefait, ce n'est pas une contrefaçon. Il est le commencement de la création. Certains l'ont traduit par le principe arché. Arché, commencement, origine, la personne ou chose qui commence, la première personne ou chose d'une série, le premier, le chef, c'est ce par quoi tout commence, c'est ce que la Bible nous dit, que tout a été créé par lui, pour lui et en lui, n'est-ce pas, en Yeshua, bien sûr. Il est la première place, la magistrature. Comprenez, l'extrémité d'une chose, il est le commencement, il est l'origine, il est le principe de la création, c'est ce que la Bible nous dit. C'est pourquoi il dit, donc, son témoignage est véritable et ce qu'il dit à Laodicée est vrai. C'est pourquoi il a pris tous ces titres pour démontrer à Laodicée qu'il est le vrai, parce que Laodicée a corrompu le message, comme nous allons le voir. Laodicée a transformé le message. Laodicée a développé une doctrine propre à elle-même, cette assemblée, cette église-là. Et nous voyons beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de dogmes aujourd'hui. Et il dit à Laodicée, je connais tes œuvres. Yeshua nous connaît, il connaît nos œuvres, il connaît les œuvres de chaque dénomination, de toute assemblée qui prétend être de ses disciples. Ouais, c'est pourquoi il peut le dire, il connaît toutes choses de toutes ces assemblées-là. Voyez, le mot syndrome est un ensemble de signes. Il faut un ensemble de signes, de symptômes pour faire un syndrome. D'accord? Le syndrome de Laodicée. Donc, nous allons voir qu'il va avoir des signes, des symptômes, des caractéristiques qu'on peut voir dans plusieurs assemblées aujourd'hui ou chez plusieurs chrétiens. Vous voyez? Le syndrome de Laodicée nous gagne, peut nous gagner tous, peut nous amener. Donc, d'abord, on nous dit que cette assemblée est inni froid. Le mot froid, c'est chokros en grec. Froid, frais, de l'eau fraîche, d'une manière métaphorique. Froid, c'est-à-dire paresseux, inerte, apathique. Il n'y a pas de sentiment. Il y a une indifférence par rapport aux œuvres de Dieu par rapport à Yeshua. C'est de quelqu'un qui a perdu sa foi, sa chaude foi. Il n'y a pas de zèle. Il n'y a pas à sa fois le désir pour la sainteté. Il n'y a pas de désir pour la sainteté. C'est une église où le péché est là, où le péché est toléré. Il est froid. Le péché est toléré. Vous voyez, le péché est, il n'est ni froid ni bouillant. Voilà, il ne veut pas être, il n'est ni froid, hein. Il dit qu'il n'est ni froid. Donc, il n'est pas, il est à la limite. Laodicée, c'est un équilibriste. C'est quelqu'un qui équilibre. Il ne veut pas rejeter la parole de Dieu. Il n'est pas froid, pas tout à fait, puisque Yeshua dit qu'il n'est ni froid ni bouillant. Il est entre les deux. Il est centriste, on peut dire comme ça. Hein, il ne veut pas, il n'est pas moins zélé, il n'est pas paresseux, il n'est pas apathique, mais non plus il n'est pas bouillant, il n'est pas zélé, non plus zestos, zélé, bouillant, très chaud, ferveur de l'esprit et le zèle, il n'a pas ça. Il est entre les deux. Vous voyez, il est entre les deux eaux. Il n'est ni froid ni bouillant. Il est entre les deux. Il fait l'équilibriste. Vous voyez, il y a un dilemme en lui. Vous voyez, il a une attitude paradoxale vis-à-vis de la foi. C'est en somme une religion. En somme, une religion qui a établi ses règles. Il ne veut pas paraître trop zélé pour Dieu. Et voilà, pour Yeshua, pour ne pas choquer peut-être, il s'est adapté au monde. Voilà, c'est vraiment une assemblée qui s'est adaptée au monde. Il joue l'équilibriste, il s'est adapté au monde. Il s'est adapté au monde. Parce que avec Yeshua, soit on est avec lui, soit on est contre lui. C'est ça au fait, il a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. D'accord ? Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse, a dit Yeshua. Donc, c'est comme la première caractéristique que nous voyons, c'est une église qui est ambivalente. Ils sont ambivalentes. Oh non, on ne veut pas montrer notre zèle pour Jésus, mais non, parce que ça va choquer le monde, les gens vont partir. Ou bien aussi, bon, on ne veut pas aussi trop s'enfoncer dans le monde, s'enfoncer dans le péché. Il faut quand même garder une apparence de piété. Hein? Vous voyez, c'est une qui garde une apparence de piété. Vous voyez, donc, c'est ça, c'est la religion chrétienne. On peut dire comme ça. C'est une religion chrétienne qui a ses dogmes, ses rites, qui a ses rites, qui s'est établi dans le monde et qui joue l'équilibre. Vous voyez, qui est compromis. On peut dire comme ça. Qui est compromis. Hein? Il n'est ni chaud ni bouillant pour Dieu. Ni zélé, ni complètement rétrograde. Mais il fait l'équilibriste. Et c'est pour cela. Et comme il veut jouer l'équilibriste, il veut être tiède. Voilà, qui fluctue. Voilà, il est tiède. Ouais. Tiède, c'est chiaros. Chiaros en grec. La condition de l'âme qui fluctue misérablement entre la torpeur et la faveur de l'amour. Voilà, donc c'est ça. Il est tiède, cette église-là est tiède. Donc voilà, c'est ça que nous voyons. La première caractéristique, c'est ça. C'est quelqu'un qui joue l'équilibriste, qui n'est pas totalement dans le monde, ni totalement dans le Seigneur non plus, qui joue l'équilibre, qui est dans la compromission avec le monde, mais qui a une apparence de piété, qui a une apparence de piété, une apparence de religiosité, et ainsi de suite. C'est la religion chrétienne. Voilà. Et donc, et à cause de cela, Yeshua dit que comme il n'est ni chaud ni bouillant, il va le vomir. Il a déjà vomi. Il a vomi de la bouche. Hein? Il a vomi de la bouche. Voilà. Et deuxième caractéristique que nous voyons de cette église de compromis. La première chose, c'est la compromission, c'est l'ambivalence, c'est la tiédeur. C'est une église partagée. Voilà, une église partagée qui a une attitude ambivalente. hein, qui a un pied dedans, comme on dit, un pied dehors. Et c'est une église qui est suffisante, qui dit, je suis riche. C'est un temps présent. Riche, en hébreu, c'est plousios, plousios, plousios. Riche, abondante en ressources matérielles, abondamment fournie, qui vient du mot plutos. Plutos, richesse, possession de biens, qui vient du mot pléto. Rempli, être accompli, être rempli. C'est-à-dire pléthorique, on le sait, a donné le terme pléthorique, être rempli, être gros par exemple, être, voilà. Mais également, ça peut aussi veut dire être dans la confusion, hein, être accompli, être plein, d'accord, voilà. Donc, c'est une assemblée, une église qui se dit qu'elle est riche, vous voyez, qu'elle est riche, donc elle se dit qu'elle n'a pas besoin de Yeshua. D'abord, richesse spirituelle, on va voir là-bas. Donc, comme je le disais, c'est une église qui est remplie, qui se suffit à elle-même, qui a ses rites, qui a... Voilà, il dit que je suis riche, il est riche, qui a ses philosophes, qui a ses théologiens, qui a ses dogmes, ses doctrines, qui est assise dans le monde et qui est organisée. Voilà, qui est organisé parce qu'il n'a besoin de rien du tout. C'est une église qui se suffit à elle-même, qui est riche, qui n'a pas besoin de l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'ils se disent. Ils n'ont pas besoin d'esprit parce qu'ils ont tout expérimenté. Ils ont une organisation bien rodée. Et ça marche, la machine tourne. Vous voyez, c'est ça, on peut le dire aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que si nous voyons ce que Yeshua a dit, après, il a dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre. Donc, si cette église est pauvre, c'est que ils n'ont pas Yeshua, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas les arts de l'Esprit. Ils ne l'ont pas. Hein? C'est que cette église ne l'a pas, n'a pas les arts de l'Esprit, n'a pas Yeshua, n'a pas la preuve. Yeshua se trouve à la porte et il frappe. Il a dit, si quelqu'un entend ma voix, il parle à des gens en particulier, parce que le réveil, vous voyez, beaucoup de gens prient pour le réveil aujourd'hui, mais malgré que la connaissance que nous avons ainsi de suite, les mœurs se sont dégradées dans les assemblées. Il y a quelques années en arrière, il n'y a pas de divorce chez les chrétiens, mais aujourd'hui c'est à foison. Même des responsables divorcent, se remarient, font n'importe quoi, ainsi de suite. Voilà, c'est à poison. Voilà, donc c'est une église qui n'a pas les richesses spirituelles d'Elohim, selon Éphésiens 1, le verset 3, parce que la Bible nous dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, si Yeshua dit que cette église est pauvre, c'est qu'elle est vraiment pauvre. Et qu'elle est nue, c'est qu'elle est vraiment nue. Et que vraiment que cette église est aveugle, c'est parce qu'elle est vraiment aveugle. Et qu'elle ne voit pas qu'elle est en train de tomber dans le trou. Hein? Qu'elle est en train de tomber dans le trou. Et cette église est satisfaite d'elle-même. Hein? C'est une église qui a des richesses spirituelles, on peut le dire entre guillemets, ou religieuses, qui est satisfaite. Vous savez, il y a beaucoup d'assemblées qui tendent vers ça aujourd'hui. Ils sont, l'église s'est assise. Vous savez, il y a le pionnier qui a amené le mouvement de Pentecôte en France avait dit qu'il avait amené un mouvement de l'esprit, mais que on l'a transformé en monument. Et c'est le processus qui guette toute dénomination, toute assemblée, ainsi de suite, parce que les assemblées ne gardent pas l'esprit. Or, la Bible nous dit souvent que la Bible dit que Jésus, Yeshua, est l'esprit de la prophétie. D'accord? Et Yeshua lui-même a dit de l'Esprit de Dieu que cet esprit prendra, l'Esprit Saint prendra de ce qui est à lui et nous le donnera. Et que l'Esprit Saint ne parlera pas de lui-même, mais va glorifier Yeshua. Mais le plus souvent, quand ces choses-là commencent à arriver, l'humain prend le dessus. Prend le dessus sur Jésus, sur l'Esprit de Dieu. C'est le fondateur plutôt qui est loué, qui est glorifié, qui est louangé, qui est mis en avant. Alors que normalement, ça ne devait pas être ainsi. Il faudrait que Yeshua grandisse et que le fondateur, lui, il diminue. Ou bien celui qui a porté ce mouvement-là. Ce n'est qu'un instrument. On ne doit pas glorifier l'instrument par lequel Yeshua est passé. Depuis quand on loue le marteau? Depuis quand le maçon ou bien l'architecte loue un marteau? Ou bien je ne sais pas quoi. On va dire l'architecte a bien construit, mais cet architecte a utilisé des ouvriers et les ouvriers ont utilisé des instruments. Mais on ne loue jamais l'instrument, on loue la personne qui a utilisé cet instrument-là. Donc c'est une deuxième caractéristique, c'est une église qui se dit « Ok, c'est surrempli, accompli, je n'ai besoin de personne, je n'ai même plus besoin de l'Esprit de Dieu, voilà, tout est rodé, tout baigne, c'est de l'huile, ça coule en abondance, ainsi de suite, au niveau spirituel, j'ai mes rituels, j'ai mes rites, j'ai mes apparats, j'ai ma musique, j'ai tout. Pourquoi aurais-je besoin de l'Esprit de Dieu ?» Voilà. Et aussi, les richesses physique. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ouais, je n'ai besoin de rien. Voilà, donc c'est une église suffisante. Il s'est enrichi. Pour pouvoir s'enrichir, et il a dû utiliser des méthodes. Plutéo également. C'est au temps parfait. Le parfait, c'est que c'est accompli déjà. Hein, accompli. Il s'est enrichi. Donc, il est riche et il s'est enrichi. Il est riche et il s'est enrichi. Et pour ça, nous avons vu qu'il y a des richesses spirituelles. Et lorsque Yeshua dit que cette église est pauvre, c'est que cette église n'a plus les richesses spirituelles, les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, n'a plus les arts de l'esprit, n'a plus l'esprit de Dieu qui conduit cette assemblée-là. Mais plutôt, c'est plutôt dans la para, c'est plutôt dans la chair, c'est plutôt dans la rituelle, c'est plutôt la religion ou dans l'émotion qui prend le dessus également. Vous voyez? Qui prend le dessus également. Voilà. Et maintenant, les richesses matérielles également. Parce que pour pouvoir s'enrichir, il faut que cette assemblée mette en place un système pour s'enrichir. N'est-ce pas? Donc, vous voyez, donc, si vous allez dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, il y a toute une stratégie de marketing pour appâter les gens, pour tirer les sous des gens, n'est-ce pas? Des frères et sœurs sont regardés comme des portefeuilles, vous savez, il y a eu cet aveugle-là que Jésus avait guéri et disait, je voyais des hommes comme des arbres. Aujourd'hui, beaucoup de ces, dans ces assemblées, les responsables voient les frères et sœurs, bien leurs adeptes, on peut le dire comme ça, leurs adhérents, comme des portefeuilles. Et tout est mis en place pour soutirer de l'argent aux gens. On culpabilise les gens. Il y a la dîme, les offrandes, des fois, mais on fait des offrandes 2 à 3 fois. On dit, ah oui, qui veut donner ça, ça, qui veut donner, tu auras cette bénédiction. Les gens crédules donnent ainsi de suite. On vend les bénédictions de l'éternel Dieu, alors que le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On vend des artifices, de l'huile d'onction. On vend de l'eau bénite. On vend des entretiens avec le pasteur, on vend des entretiens avec le prophète, on vend les prophéties, on vend des livres, on vend des documents, on vend des choses. D'accord, c'est par ça. On prêche l'évangile de la prospérité, ça aussi un moyen pour s'enrichir. D'accord, on triche les gens, on triche les gens. Il y a eu une dispute dans une assemblée, je pense que c'est ici en France ou bien en Afrique, où le pasteur a fait trois fois après la dîme, c'est trois fois une offrande encore, mais les gens se sont révoltés. Vous voyez, tout est fait pour soutirer de l'argent aux gens. C'est ça. Il s'est enrichi comment? Par des méthodes frauduleuses, par des doctrines frauduleuses. Vous voyez, l'évangile de prospérité est une de ces doctrines où on dit aux gens, tu donnes un franc ou bien un euro, l'Éternel t'en donnera 100. C'est un mensonge. L'Éternel Dieu n'est pas, Elohim n'est pas une banque. C'est un mensonge, ça. Alors, on prêche ça aux gens et les gens sont crédules aussi. Alléluia, alléluia, parce que ça, c'est la chair, parce que la Bible nous dit que dans les derniers temps, les gens seront attirés par ça, veulent s'enrichir, veulent être le meilleur. On dit aux gens qui seront les meilleurs, qui vont gagner les contrats, qui seront ceci, qui seront cela, qui seront la tête et non la queue, qui seront ça, on manipule la parole de Dieu. On manipule les promesses de Dieu pour s'enrichir. C'est comme ça que cette église s'est enrichie. On fait des ventes aux enchères. Même, il y en a même qui vendent le sang de Jésus, une substance appelée le sang de Jésus pour les gens de bois. Ou bien on vend les places pour que tu sois proche du pasteur. Ben oui, mais tu payes. Et si toi tu n'as que 10 euros, mais tu vas au dernier rang ou bien à l'extérieur de l'assemblée, alors que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tout ce que nous pouvons dire sur Dieu, tout ce que nous pouvons dire sur Elohim, sur Yeshua, sur la Bible, les commentaires, mais nous a été révélé par qui? C'est l'Éternel Dieu qui en est le propriétaire. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses et nous ne devons pas commercialiser ces choses, mes frères et sœurs. On ne doit pas commercialiser ces choses-là. On ne doit pas soutirer de l'argent. Même si l'ouvrier mérite son salaire, l'ouvrier mérite son salaire à juste titre. Ça devait être comme ça, mes frères et sœurs. Il ne faut pas manipuler la parole de Dieu, manipuler les gens, les tromper. Fuyez ces assemblées, mes frères et sœurs, fuyez ces assemblées de Laodicée là, qui s'enrichissent à vos dépens. Et les pasteurs eux-mêmes vivent convenablement, ont des chaînes en or, des bagues. Je ne vois même pas à quoi ça sert, ces bagues-là. À moins que ce soit comment dire, des bagues d'une autre nature, puisque tout est bon. La fin, puisque dans cette assemblée de Laodicée, la fin justifie les moyens. On passe aujourd'hui par des manières occultes pour envoûter les gens dans certaines assemblées, pour envoûter les gens afin que les gens soient dociles plutôt. Il y a beaucoup de témoignages là-dessus. Beaucoup de témoignages. Vous voyez, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Comment une assemblée peut dire ça? C'est impossible parce que la Bible nous dit quoi? Que personne ne dit Jésus est Seigneur si ce n'est le Saint-Esprit. Parce que Yeshua est l'esprit de la prophétie. Rien ne peut se faire en dehors de lui. Il doit être le centre de toute prédication. Il doit être le centre de toute prophétie. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu ne parlera pas de lui-même, mais il glorifiera Yeshua. Alors que dans ces assemblées, c'est le responsable qui est mis en avant. On l'appelle maman, papa, pasteur, maman, pasteur, maman, bishop, papa, bishop, ou bien tous les titres redondants, ronflants, comme vous voulez, quoi. C'est du n'importe quoi. Fuyez ces choses. Revenons à la parole de Dieu. Sûrement que cette église, cette assemblée de Laodicée, sera le modèle le plus important dans les derniers temps. Parce que je ne vois pas le réveil qu'on nous a promis, ou bien que beaucoup de gens disent ici, le réveil, non. Mais la Bible nous dit simplement, Yeshua même l'a dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Donc s'il y a réveil, ce réveil sera individuel et non collectif. Beaucoup de gens prient pour ce réveil depuis des années, mais on ne le voit pas. Mais ce qu'on voit, c'est une dégradation des mœurs dans l'Église. Il y a quelqu'un qui a dit il y a quelques années, j'ai cherché l'Église, je l'ai trouvée dans le monde. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvée dans l'Église. Dans l'Église. D'accord? Voilà. Donc, il s'enrichit d'une manière frauduleuse. On va, bon, vous-même, vous savez, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a aussi des faux miracles. On s'enrichit donc en faisant des faux miracles également. C'est pourquoi je dis que ces gens-là qui font de ces choses font appel à des puissances maléfiques, à des puissances autres que la puissance de Yeshua, puisque le diable lui-même se déguise en ange de lumière, nous dit la parole de l'Éternel Dieu. C'est ça, non? C'est ça. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus, vous le savez, mais cette assemblée, Yeshua la connaît plus parce que Yeshua, lui, il voit tout. Il voit tout, il dit que cette église est misérable, cette église est pauvre, est aveugle, est nue. Toutes ces caractéristiques, vous voyez, cela veut dire que cette église n'a que l'apparence. Or, l'apparence trompe. Dieu ne voit pas l'apparence. Dieu voit ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur de ces assemblées de Laodicée, c'est le vide, c'est l'abîme, c'est le chaos, c'est une vacuité totale. Une vacuité totale. Mais, c'est un autre nom de l'Éternel Dieu. Mais si cette assemblée se repent, l'Éternel Dieu le rétablira. C'est la bonne nouvelle. Et il ne l'oblige pas. Hein. Il dit, je te conseille, le verset 18. Je te conseille. Vous voyez, Yeshua ne force pas. Il conseille, il te donne la recette. C'est ce que l'Éternel Dieu aussi a dit aux Israélites. Hein. Je mets devant toi, Deutéronome 30:15, je mets devant toi le chemin de la mort et le chemin de la vie. Choisis la vie, choisis la vie. Je te conseille. Voilà, nous tous, nous devons retourner à Yeshua, nous devons retourner à la croix. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des richesses éternelles, de l'or qui ne périt jamais. Ce sont des richesses célestes éprouvées par le feu, c'est-à-dire purifiées. Purifiées, il n'y a plus de scories dedans. Par le feu de l'épreuve. L'épreuve de feu. Ouais, l'épreuve de feu. Il y a un livre comme ça, l'épreuve de feu. Afin que tu deviennes véritablement riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un colis pour oindre tes yeux, afin que tu vois. C'est ce que la Bible nous dit. Moi, je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle. Voilà. Quitte ta froideur ou bien ta tiédeur et repens-toi. Repens-toi, mes frères, mes sœurs, repentons-nous. Repentons-nous. Nous ne connaissons pas suffisamment. Cette église se dit riche aussi en sagesse. Mais oui, sagesse. Alors que la Bible dit que même la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Mes frères, mes sœurs, la sagesse. Oh oui, nous sommes morts, nous avons la connaissance, nous avons les meilleurs prédicateurs, nous avons les meilleurs ceci, les meilleurs cela, nous avons des apôtres, des bishops, des archibishops, nous avons tout, des évêques, je ne sais pas quoi encore, des prophètes, nous avons tout. Yeshua te dit ici que ça c'est du pipeau, il n'y a rien, tu es vide. Cette église-là est vide. Cette assemblée est vide, mais repens-toi, retourne à la croix, et nous devons tous y aller. Par la fin, à cette fin des temps, la Bible nous exhorte à jauger nous-mêmes si nous sommes encore dans la foi, mes frères et sœurs. Je ne veux pas être long. C'est vrai que je prends l'habitude d'être long, mais le syndrome de Laodicée a déjà atteint beaucoup de mouvements qui sont devenus maintenant des monuments et qui ne cherchent que de l'argent. Une des caractéristiques que cette assemblée est devenue un monument, c'est la recherche effrénée de l'argent. C'est la recherche effrénée des richesses de ce monde. On ne s'occupe plus des âmes, on ne s'occupe plus de l'évangélisation. On veut s'établir dans ce monde, on veut prendre sa place, on veut être à l'aise, on veut manger avec les 10 doigts, avec les 2 mains, on veut manger, on veut s'établir. Ok, enfin, nous sommes arrivés. Oh, merci Seigneur Jésus, on dit comme ça, alors que c'est pas vrai. La Bible nous dit que celui vraiment qui veut vivre pieusement en Yeshua sera persécuté. C'est pourquoi la Bible nous dit de prendre chaque fois notre croix. Mes frères et sœurs, prenons notre croix de tous les jours et repentons-nous. Alors, le Yeshua nous éclairera. Yeshua nous donnera du colis. Yeshua nous donnera des richesses éternelles. Il nous donnera un vêtement blanc pour que nos nudités ne paraissent pas. Voilà. Sinon, à la fin des temps, tout se verra que cette assemblée qui paraissait bien aux yeux des hommes n'était que vide, n'était que rien du tout, n'était rien du tout et n'avait pas l'esprit, n'avait pas les bénédictions éternelles et que Yeshua n'était pas là-bas. Voilà, parce que c'est par l'Esprit de Dieu que nous disons que Yeshua est Seigneur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il a dit aux églises. Donc, ce syndrome de Laodicée concerne toutes les églises, toutes les assemblées chrétiennes, tous les regroupements chrétiens, églises de maison, ou bien église dénomination installée et tout le monde, mes frères et sœurs, soyons parmi les vainqueurs. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Mes frères et sœurs, soyons parmi les vainqueurs. Délaissons ces choses-là et regardons à Yeshua, repentons-nous et le Seigneur nous rétablira en toutes choses et nous donnera encore son Esprit Saint. Que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse et nous garde et nous donne la force de prendre chaque jour notre croix. Amen et Amen.